Tout le monde. Alors oui, on est le samedi 19 décembre 2015 dans le vidéo rendu numéro 51. Vous savez ce que ça veut dire, 51? Il y a 52 semaines dans l'année. On est à l'avant-dernière semaine de l'année 2015 et après, on parlera de l'année 2015 comme une année du passé. Vous êtes probablement allé voir le film avec Star Wars numéro 7. Ouais, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir au moment où vous regardez l'émission, peut-être dans la semaine de Noël, parce que là, on fait une émission de Noël. C'est pour ça qu'on a fait des décorations un peu de Noël. Puis même Yoda qui s'est mis un costume de Père Noël, ils vont rendre un peu. Là, ce qu'on m'a dit, c'est que Yoda, dans cet épisode numéro 7 de Star Wars, le réveil de la Force, on ne voit pas beaucoup Yoda. Alors, je vais faire un peu comme il y en a qui disent. Il s'est dégonflé, le Yoda. Ah oui, mon Yoda qui se dégonfle. Yoda Père Noël. Ben, je vous invite à aller le voir, le film, parce que j'ai eu des commentaires de plusieurs de mes amis, entre autres Jean de Floride, qui m'a téléphoné de là-bas pour me dire, écoute Richard, lui, c'est considéré comme le deuxième meilleur épisode de Star Wars, la guerre des étoiles, cet épisode numéro 7. Alors, ça veut dire que c'est excellent. Le réveil de la Force, c'est les gens qui se réveillent, qui réalisent qu'on a été manipulés de toutes sortes de manières sur Terre, aujourd'hui, mais dans l'histoire de la guerre des étoiles, c'est que les gens commencent à se réveiller. Puis au lieu de les appeler les rebelles, ils les appellent la résistance à l'Empire. Vous vous souvenez, le Dark Vader, l'Empire contre-attaque, l'Empire, l'Étoile Noire. Bon, ben, il s'agit vraiment d'une transformation, si on veut, un tournant dans la série de la guerre des étoiles. Et ça va devenir plus philosophique, même si celui-là est extrêmement violent. Parce que c'est bien beau avoir tué Darth Vader, avoir éliminé l'Empereur, avoir détruit l'Étoile Noire. Au-delà de tout ça, l'Empire existe encore. Tu sais, c'est pas parce qu'on détruirait le gros porte-avions américain que les Américains disparaîtraient, ou un porte-avions russe. Le fameux sous-marin Octobre Rouge, les Russes. Là, bon. Chaque chose en son temps. On est a long time ago in a galaxy far, far away. Là, cette semaine, on va être right now here in the Québec, dans la province de Québec, dans la semaine de Noël. Et moi, je m'appelle le Père Noël. Et j'ai eu l'idée de rencontrer Saint-Pierre, parce que le Père Noël, ça, c'est le côté très profane, tu sais, populaire, là. Ça vient du, vous savez, ça vient de Coca-Cola. C'était les couleurs rouge et blanc de Coca-Cola. Bon. Alors, au début, Coca-Cola, c'était la Coke. Ah oui, la Coke. Tout le monde a compris, on en sniffe du bon. Et c'est un médicament. Et finalement, c'est devenu un breuvage populaire. Comme le Père Noël qui buvait du Coke pour se donner de l'énergie. Mais là, ce soir, j'ai rencontré quelqu'un dans des circonstances assez spéciales. On va en parler ensemble. Et c'est quand je lui ai demandé son nom. Il m'a dit, mon nom, c'est Saint-Pierre. Bon Dieu, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est le Père Noël qui va rencontrer Saint-Pierre. C'est bon. C'est le côté profane de Père Noël qui va rencontrer le côté sacré, Saint-Pierre, qui a les clés du paradis. Hein? Ben oui. Alors, vous savez que Saint-Pierre, dans la tradition chrétienne, est très, très important. C'est lui qui ouvre les portes du paradis. Ben, il est avec moi en studio à Mont-Saint-Hilaire, ce fameux samedi soir, 19 décembre 2015, dans cette semaine de Noël. Et pour la semaine de Noël, je lui ai demandé, Saint-Pierre, t'en connais du monde sur la Terre? Alors, oui, il en connaît du monde sur la Terre. Et ce Saint-Pierre-là, ben en plus, il y a beaucoup d'amis autour de lui. Et il y a une très nombreuse famille qu'on va découvrir ce soir par Skype. Alors, voici notre ami Saint-Pierre. Bonsoir, Saint-Pierre. Tu t'appelles bien Saint-Pierre?
Ouais? Salut, jeune homme. Claude Saint-Pierre.
Claude Saint-Pierre. Ben, bravo. Alors, je peux-tu vous demander, en commençant, quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 78 ans et 5 mois.
Ouais, ça veut dire que t'es 80 approches, là.
L'année prochaine, le 1er janvier, je pourrais dire à mes enfants, l'an prochain, j'aurai 80 ans. Ouais. Si Dieu le veut.
Bon. Et des enfants, vous en avez eu plusieurs?
Mon épouse et moi, on a eu 3 enfants. Un garçon, 2 filles. Et nous avons adopté un Vietnamien à l'âge de 14 ans, qui a aujourd'hui 46 ans. Peut-être que je pourrais élaborer sur ça, c'est que quand on a les réfugiés qui sont allés ici.
Les Syriens, hein?
Ça va?
Oui, ok, on en parlera.
J'ai rien contre les Syriens, j'ai rien contre les réfugiés, mais faut faire attention. On élaborera plus tard.
Oui, hein? Oui, d'accord.
Je voudrais quand même.
Et avez-vous eu des petits-enfants?
Ah, j'ai 7 petits-enfants.
Alors, regardez là,
dont,
le caméra.
Dont Cynthiane. Et nous avons 5 arrière-petits-enfants qui viennent de Cynthiane et Carl.
Okay.
Donc, nous voyons, mon épouse et moi, nous voyons la 4e génération.
C'est ça, c'est Cynthia. Alors, on va dire bonjour à Cynthia. Bonjour, Cynthia, t'es là?
Bonjour.
Ah, c'est bon. T'es à Sept-Îles, je crois, hein?
Oui.
Ah, merveilleux.
La réserve qui s'appelle? Wachette. Qui veut dire la rencontre, hein? Ça va? La rencontre.
La rencontre. Ben, là, on se rencontre ce soir. Puis, hey, on se rencontre par l'électronique, là, Internet, c'est génial. Montre-nous, t'as des beaux enfants autour de toi, puis tu voulais les coucher tantôt avant l'émission. J'ai dit, garde-les debout un peu qu'on les voit. On est à l'époque de Noël.
Mathias, Tanisha. Ah. Kira.
Le petit bébé.
Jackson.
Je sais pas.
Charles.
Kira, puis Maïté.
Maïté, bonjour Maïté.
Puis mon conjoint Carl.
Salut Carl, un plaisir.
Hey, bravo, alors si vous allez sur Internet présentement, on est en direct en allant dans YouTube, vous faites Orandia TV, puis vous allez nous voir 30 secondes plus tard que ce qu'on fait en direct, mais ça va être là maintenant, éternellement, sur Internet, ça va être ça, Claude. Ton image, ce que tu vas dire ce soir, tout ce que tu vas dire va être retenu contre toi, fais attention. On est en direct. Alors, Cynthia, on va s'en reparler un petit peu plus tard. Tantôt, je vais te demander quel est, d'après toi, et face avec une belle famille, avec de nombreux enfants, le sens que tu donnes aujourd'hui à Noël. On va moins à l'église, c'est moins le petit Jésus. Même le Père Noël, je pense qu'il n'y a plus la vogue qu'il y avait il y a 20 ans. Alors,
non.
C'est ça. Fait que tu me donneras ton opinion sur le sens de Noël aujourd'hui.
Parfait.
Merci. Alors, on revient ici avec Claude, parce que là, Claude, il se prépare avec... t'as quoi dans ton temps?
Moi, c'est Cynthia, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends.
Moi, Cynthia, je voudrais te dire tout l'amour que j'ai pour ta famille. Et je veux le dire avec des incantations venant de mon cœur, avec un tam-tam.
Hey, là,
ça va. OK? Il n'y a pas de mots. C'est ce que... Et j'exprime ce que j'ai dans le cœur. Concernant ta famille, je vous offre ce petit moment. Avec émotion. Et avec le cœur en plein amour.
Qui pleure?
Claude, on comprend que t'es amérindien aussi. Et c'est sacré, là, ce que tu viens de faire. Là. C'est pas juste parler comme ça, c'est ça. C'est pas pour rien, tu t'appelles Saint-Pierre. C'est toi qui représente le côté sacré ce soir, puis je vois les émotions de Cynthia. De quel groupe indien êtes-vous?
Nous autres, on est amérindiens, c'est... moi, c'est pas direct. Mon père disait toujours, on est des Amérindiens de quatrième souche. Mais je suis très près des Amérindiens, parce que mes meilleurs amis, lorsque j'avais 9-10 ans, ça a été un Amérindien, Monsieur Leblanc, un petit gars Leblanc, qui vit encore. Salut Walter, tu vis encore. J'ai joué au hockey pour les Indiens, j'ai été habillé comme les Indiens. Et lorsque j'étais plus grand, ben, j'ai vu ma fille marier un Amérindien. C'était une Amérindienne, ses petits-enfants restent en réserve. Donc, les Amérindiens et leur philosophie font partie de moi-même, en fait. Bon, comprenez-vous?
Oui.
Mon père disait toujours pour faire des faces. Mon père, c'était un gars qui avait d'humour. Il disait, mon garçon, puis je comprenais très bien, là. Si tu étais un Amérindien, ne sois pas un sauvage. Et j'ai compris ce qu'il voulait me dire.
Ah oui.
Sois bien éduqué, même si tu es ami avec des Amérindiens. Ils nous ont emmenés chez nous, puis mon père les aimait bien, puis ils t'ont dit adopté, ils disaient oui. Donc, dans mon cœur, dans mon âme, je suis aussi un Amérindien. Et je partage beaucoup de choses que je vois à la télévision. Il y a d'autres choses que je partage moins. Mais encore une fois, dans mon cœur, les Amérindiens font partie de moi-même.
Tu m'as déjà dit même que tes enfants ont tous un nom amérindien.
Ses enfants, oui. Elle s'appelle, en amérindien, c'est Wabouganis.
Oui.
S'appelle, vas-y donc.
Ça veut dire petite fleur.
Petite fleur. Son frère s'appelle Maïgan, signifie le loup.
OK.
Et oui. Tanisha, est-ce qu'il y a une signification amérindienne?
Non.
Les autres non plus?
Non.
OK. Le loup, quand on le présentait, ce petit garçon-là, qui a aujourd'hui 15 ans, comment tu t'appelles? Il disait Maïgan. Ah,
oui. Ah, c'est bon.
Et je voudrais, est-ce que je peux les saluer?
Ben oui.
Je voudrais saluer d'une façon spéciale les gens de Rimouski qui m'écoutent ce soir. Salut Denise. Salut Régis. Merci d'être là. Et je te demande d'une façon particulière, Denise, de prier pour moi aussi. En ce moment. Samy Richard disait, moi, j'ai pas vu personne de Star Wars. Mais j'ai vu un jour Jésus. Ben, merci. Est-ce que je peux rajouter? Parce que comme, au contraire que mon ami, parce que je suis un croyant en Dieu, et il s'est manifesté dans mon cœur un jour où j'étais dans une position très, très pas confortable.
Oui, on sent ça, ce que tu veux dire.
Et j'ai dit au Seigneur, à partir de maintenant, je t'appartiens. Ça fait pas de moi un parfait, mais ça fait de moi un chrétien. Je fais partie, je profite de l'occasion pour dire à la population qui nous écoute, merci d'être là, d'ailleurs, que je fais partie d'une association qui s'appelle les Gédéons International. Je suis une petite goutte dans ça. On est 250 000 dans le monde. Nous achetons, nous fournissons de l'argent pour acheter des petits, des Nouveaux Testaments, des Proverbes, et les Proverbes et les Psaumes, et nous les distribuons. Environ un par jour. Nous distribuons, nous sommes ils nous appellent les facteurs, plutôt, et ça nous fait plaisir, c'est la parole de Dieu. On en distribue environ 250 000 par jour à travers le monde. Les facteurs de Jésus, nous les distribuons dans les prisons, dans les hôtels, c'est notre mission, les Gédéons.
Bon, nous sommes de retour avec l'émission Orandia. Le vidéo rendu numéro 51 de la semaine qui nous conduit à Noël. Bienvenue. Et ça va être après, éternellement sur Internet, Claude. Ça reste sur Internet maintenant. Et j'ai beaucoup aimé ton message à Cynthia tantôt. On va lui demander de nous rejoindre par Skype, Cynthia, pour qu'on rétablisse les communications. Et c'est notre ordinateur qui semble avoir eu un bug. Et on reprend. Alors, tout ça va être mis bout à bout ensemble. Si vous nous avez retrouvés déjà là, sur Internet, ça va vous permettre de voir le vidéo en VIA intégralement. Toutes les coupures, là, on ne les verra plus à partir de demain.
C'est ça? Ah oui, mais...
Ah. Oui.
Encore une fois, Denise, on a eu un petit problème technique. J'espère à tout le monde qui nous écoute ce soir que par mes propos et ma foi et mes prières, que je déposerai dans le cœur de vous autres, chers amis, un baume d'espérance, un baume de fête, une fête spirituelle, en oubliant quelque peu les cadeaux, mais en se faisant un cadeau de demander à Dieu la foi qui nous permet de vivre, mais de vivre en abondance. Si je réussis seulement à faire ça à une personne seulement, mon objectif aurait été atteint. Et juste pour dégager un petit peu, on ne faut pas oublier qu'on est dans le temps de Noël. Il y a des gens même qui sont hospitalisés qui m'écoutent. Et je voudrais encore une fois leur donner de l'espérance. Il y a une petite chanson qu'on dit qui est fun. Là, je bâtis ma maison près de toi, Jésus. Et dis aux anges, je rentre chez moi et ça me fait rien. Qui sera mon voisin pourvu que ma maison soit près de toi? C'est avec amour que je te dis, tu sais à qui je parle, je sais à qui je parle. Bon courage, ma fille, et que Dieu te bénisse en abondance. Lâche pas!
Voilà le message du patriarche. Ouais, t'es toujours là, Cynthia?
Oui.
OK, c'est bon. Alors, Claude, moi, je suis content parce que l'aspect spirituel, religieux, c'est important qu'on l'ait à Noël, au lieu de les cadeaux, la dépense, les dettes, c'est ça. Mais là, outre Cynthia qui est à cette île, on a ici en studio quelqu'un qui, lui, va nous parler de dépenses. Mais de la dépense comme on avait dans le temps. Alors, j'allais dire qu'en studio, on a avec nous, Johan va nous le montrer, ton beau-fils, hein?
Mon gendre.
Ton gendre, oui, c'est vrai, c'est un gendre, celui qui a marié ta fille, qui est ici dans la région de Mont-Saint-Hilaire, et précisément à Belle-Oeil, avec une boutique de produits fins.
Meilleur du monde.
On appelle ça meilleur du monde. Alors, il va nous expliquer un peu c'est qui, c'est quoi, le meilleur du monde. On va voir tantôt de la boutique pendant que tu vas nous parler, Éric, hein?
Oui.
Alors, on va justement voir l'affiche de l'entrée de ta boutique. Pendant ce temps-là, tu peux nous la décrire un peu. Oui.
Alors, bonsoir. C'est avec plaisir que je vais vous parler de notre boutique. On a fait l'acquisition en mai. Depuis ce temps-là, on est bien content de son évolution. On a plusieurs produits à la boutique qui se situe au 672 Duvernay à Belle-Oeil. C'est autour de 50 variétés différentes d'huile d'olive, des produits olives. Pour les amateurs de confiture, on a les produits Naridé qui sont très populaires présentement. On a également, je vais prendre mon temps, je vais laisser le temps les images de... aux gens de voir les images. On a également 20 variétés de moutarde différentes, des chocolats importés de Belgique, directement de Belgique, donc des chocolats frais importés hebdomadairement. Également un service hors pair. Ma femme ainsi que ma belle-mère sont toujours là, très souriantes pour vous accueillir. Pour vous offrir des idées cadeaux, des idées de recettes et des conseils culinaires, n'hésitez pas à venir nous voir. La boutique est ouverte présentement durant la période des fêtes, 7 jours sur 7, de 9h à 9h à 21h. Et puis, ça sera comme ça jusqu'au 31 janvier. Donc, ça va nous faire un plaisir. On va présenter les différents produits.
Le meilleur du monde, c'est les importations, des produits fins, des produits qu'on ne trouve pas chez Métro et chez...
Exactement. On se démarque, comme je disais tantôt, on est chanceux, on a des exclusivités Au niveau des chocolats belges, comme je disais tantôt, au niveau des produits olives, les huiles d'olive, on a encore l'exclusivité dans la région. Également, au niveau des... il y a un autre produit que je voulais vous parler, évidemment, les vinaigres balsamiques. Puis, on a également les épices qui viennent directement de Québec. On a un fournisseur à Québec qui on a des différentes épices. Vous en aurez pour tous les goûts. Les épices qu'on ne trouve pas sur les tablettes des épiceries, mais uniquement en notre boutique.
OK. Ah ben, OK. Là, tu es arrivé dans notre studio un petit peu impromptu. C'est pour ça que tu es comme dans le backstage.
Oui. C'était une surprise, je voulais faire à mon beau-père.
Oui, très belle surprise. Ah, il est content, bien sûr. C'est ça, c'est un rendez-vous de la famille, un peu. Là. Comment tu le trouves, ton beau-père? Dis-moi donc deux mots, là.
Ah, mon beau-père, c'est quelqu'un qui est de très attachant, puis il n'en a pas fait de mention. Mais j'aimerais ça qu'il revienne tantôt nous expliquer l'hommage qu'il a eu en étant nommé il y a quelques années, ben plusieurs années, comme le meilleur communicateur au Québec. Donc c'est quand même quelque chose d'important à souligner, dont il n'a pas fait mention. Puis c'est quelqu'un qui est très impliqué, il a été pro-maire dans la ville de Sept-Îles, puis c'est quelqu'un qui est de, je vous dirais, pour moi, c'est un confident. Donc, c'est quelqu'un qui avec qui... très bon conseil. Tout le monde, beaucoup de gens l'appellent pour demander conseil. C'est quelqu'un qui est par la religion, par sa foi en Dieu. Fait en sorte qu'il est très positif.
Bienvenue chez nous.
Toujours les bons mots pour me rendre heureux.
Oui, c'est ça. Moi, je trouve que je suis un très bon communicateur. Quand je l'ai rencontré au Tim Hortons à Belleuil, je l'avais jamais vu de ma vie il y a une semaine. Là. Ça fait à peu près une semaine et quelques jours, là, tu vas me dire. Ça fait quoi, là, 13, 14 jours? Là?
Ben, 12 jours.
12 jours, bon. C'est ça. Alors, Claude, Éric, t'as pas autre chose à nous ajouter. Moi, je suis content que tu aies présenté ta boutique parce que je l'ai visitée pour la première fois là, que je me suis depuis 30 ans. Et vous êtes installé là depuis combien de temps?
C'est comme je disais tantôt, depuis le mois de mai qu'on était installé au
mai
2015. Puis depuis ce temps, c'est la croissance continue. Donc on vous remercie de nous avoir donné cette chance aujourd'hui de parler de notre boutique.
Ben, moi je voulais que Claude, le patriarche, je l'appelle comme ça, c'est le plus vieux de la famille.
Ouais.
Ben il y a un retour avec tous ses enfants, avec ses petits-enfants et tout. Et t'en fais partie indirectement par le fait que tu es marié à sa fille.
Ouais.
Ben, il fallait que tu viennes nous montrer. Moi, je dis souvent, on juge l'arbre à ses fruits. Tu sais, la vieille formule. Ben, les premiers fruits d'un être humain, mon ami, c'est nos enfants. Hein? Oui, oui, parce que tu peux parler de quelqu'un.
Je vous fais quand même une petite rectification. Merci beaucoup de m'avoir rappelé ce bon moment. Le meilleur communicateur au Québec, pour le ministère de loisirs, de la chasse et de la pêche.
C'est toi, ça?
C'est moi. Oui, je le prends humblement. C'était dans une soirée qui s'appelait Étoiles et Galaxies. Et là, on m'a remis ce prix, parce que j'ai sorti un petit peu des sentiers battus. Au lieu de mettre des posters dans la vitrine pour dire braconner ses volets, protégeons notre faune, moi, j'ai pensé, avec l'aide d'autres personnes, dont deux de mes enfants qui... actait dans cette pièce de théâtre-là, ça s'appelait « Gérald, t'as pas le droit ». Ça se passait en plein bois. Et ces gens-là ont compris le message que braconner, c'était voler. Et le gouvernement a décidé que c'est moi qui avais fait la plus grande promotion pour la conservation de la faune et de nos forêts.
Je pense qu'il y a une question de licence de plaque d'automobile, dans l'anecdote.
J'avais pensé de mettre des plaques d'automobile en avant de l'automobile, et c'était marqué « Sur la Côte-Nord, protégeons notre faune ». N'est-ce pas? Et M. Picotte, le ministre du temps, m'a fait demander, il a dit « Comment ça, Claude? J'avais mis 5 000. Ça coûtait rien, c'était tout des commanditaires. » Puis j'avais donné comme exemple, lorsque tu vois, il y a une plaque en avant d'automobile, j'aime ma femme, c'est très rare que sa maîtresse est en arrière. Voyez-vous? S'il accepte de porter ce message, braconner ses volets, on en fait, d'une façon bénévole, on en fait un agent de conservation de la faune. Fait qu'on avait 5 000 agents de conservation de la faune. De plus, au ministère des Loisirs et Chassepêche. C'est un succès extraordinaire avec toute l'équipe que j'avais. Parce que j'étais professeur tout seul, j'avais toute l'équipe qui était avec moi. Et je lève mon chapeau, ceux et celles qui m'entendent aujourd'hui.
Bon, ben bravo, Claude. Là, dans notre rencontre de la semaine de Noël, ce qui m'a impressionné aussi dans ton approche qu'on a eue ensemble, c'est de dire que tu vas toujours chercher le côté positif de tout. Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Hein. T'en as eu, moi. Alors, je te demande pas de faire une confession publique, non, là, mais quand il nous a dit, Éric, que tu as été pro-maire de Sept-Îles, parce que il y a un livre, là, de Sept-Îles, puis ça, c'est le tome 1. L'auteur m'avait donné le tome 1 quand j'avais été à Sept-Îles. Il y a le tome 2, il y a le tome 3. Ouais, puis on parle de toi là-dedans.
Ouais, là.
Mais en éloge,
t'as pas toujours été en éloge, mais dans ce cas-là, oui.
Mais t'as passé presque la majeure partie de ta vie à Sept-Îles.
Toute ma vie, je suis né à Clark City, où ça n'existe plus maintenant, à 18 000 de Sept-Îles.
OK.
Aujourd'hui, ça s'appelle Sept-Îles Ouest. Et j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans, la journée de ma fête. Et j'ai terminé, j'avais 57 ans, la journée de ma fête. J'ai travaillé 40 ans, dont 30 ans au gouvernement. J'ai fait tous les gouvernements fédéraux, municipaux, scolaires. J'ai touché à tout. J'ai été réserviste et lieutenant de la Marine royale du Canada, dont escorte du bateau escorte de la Reine Élisabeth, qui est vivant maintenant, sur le bateau HMCS Sainte-Foy. HMCS veut dire Her Majesty Canadian Ship. Et j'ai eu l'honneur d'être escorte du gouverneur général Vincent Massé, ce temps-là. Bon, ce temps-là, on touchait dans les hamacs des bateaux. J'ai eu ce grand honneur et c'était très formateur pour moi. Et une des choses qui m'a aidé beaucoup, c'est que les gens m'ont fait confiance. J'ai été représenté la Côte-Nord avec un de mes amis, les scouts de la Côte-Nord, au Jamboree mondial en 1955. Nous étions environ 63 000 et j'ai eu l'honneur encore de représenter la Côte-Nord comme scout. Et dans mon cœur, autant que la philosophie de mes amis que je l'ai épousée, dans mon cœur, je suis comme un scout. Toujours prêt.
Excellent. Écoute, pendant qu'on a encore Cynthia avec nous via Skype, elle ne te voit plus là, présentement. Tu peux-tu faire un test, Cynthia, voir si la caméra va reprendre le contact? Hein? Parce que Skype, là en bas, là, le bouton caméra qui est barré, là, des fois que ça permettait de nous voir, ça serait agréable. Mais au moins, elle a une bonne idée de l'image qu'on voit d'elle ou qu'elle voyait de. Ah non, ça ne peut pas embarquer encore. Ah ben, Cynthia, tu nous entends? OK. Alors, j'arrive avec la question. Est-ce que tu peux nous donner, toi, le sens de la fête de Noël maintenant? On sait que c'est plus tellement le petit Jésus, en tout cas à Montréal, là, puis dans les grandes villes, on parle plus beaucoup du petit Jésus. Je ne sais pas si à cette île, on en parle encore.
Non, on n'en parle plus vraiment.
Non.
Pour moi, Noël, c'est complètement, c'est familial, c'est l'amour, la joie. Surtout que mes grands-parents s'en viennent pour Noël avec moi.
Alors, de retour avec maintenant, Claude, on rejoint une autre de tes enfants qui se trouve à être la mère de Cynthia qui était à cette île tantôt, qui était plein d'enfants autour d'elle.
La grand-mère des cinq petits-enfants qu'on a vus.
Ah ben oui, c'est en même temps. Hey, Nathalie, t'as pas l'air d'une grand-mère, veux-tu que je te dise? T'as pas l'air d'une grand-mère. Moi, avec la barbe, là,
je pourrais... Merci du compliment.
Ah, définitivement. Et écoute, il paraît que tu suivais l'ésotérisme expérimental avec Richard Glenn et le gars à la moustache quand t'étais plus jeune.
Ben, je suivais pas religieusement.
Oh, non, j'ai jamais été une religion non plus.
Mais je me rappelle d'avoir écouté quelques émissions quand j'étais jeune, oui.
Ah oui, hein? Ah ben c'est bon. Et tu as une formation maintenant dans le domaine de?
J'ai une formation en anthropologie et j'ai travaillé avec des archéologues, surtout en Ontario.
Oui. OK, ah ben c'est bon. L'archéologie au Canada, est-ce que c'est sur les origines des, je dirais, les tribus indiennes, ou est-ce que c'est plus l'archéologie animale avec les dinosaures et tout ça, comme on a à Calgary?
Non,
là, vous faites référence à la paléontologie.
Ah.
Ceux qui s'occupent de faire les découvertes de fossiles de dinosaures, c'est les paléontologues. Donc, l'archéologie, c'est l'anthropologie qui englobe l'anthropologie sociale puis l'anthropologie physique qui est l'archéologie. C'est une science quand même assez récente, là. Ça date du 19e siècle, fin du 19e siècle à peu près.
Okay.
Puis, en fait, moi, j'ai travaillé plus dans le domaine de la préhistoire amérindienne, mais il y a l'archéologie historique aussi, où on se concentre sur les vestiges de la période historique, comme ça le dit, là. Moi, c'était plus le lithique, donc la période de la préhistoire, parce que, bon, on se réfère à ça parce que on a commencé à avoir des écritures une fois que les Européens sont arrivés. Donc, là, nous, on recherchait des vestiges de traces d'habitation amérindienne dans la région de l'Ontario, surtout où j'ai travaillé.
Mm-hmm. Okay.
Je voudrais mentionner aussi que Nathalie est un artiste vraiment reconnu. Et même, on a une pierre ici que son garçon a dessiné, Megan, je crois. Et que madame monsieur a acheté à Rivière-du-Loup.
Ah oui, l'Indien. Tu sais, la tête d'Indien, là, c'est toi. Ça. Regarde, je te la montre. Là, je la montre sur l'autre caméra. Sur ma caméra, pour qu'on voit que je la montre à l'autre caméra, pour que Nathalie voit bien.
Ben oui!
Ça te dit quelque chose, cette pierre-là?
Ben oui!
Ah ben, regarde, tu sais, c'est Geneviève qui l'avait acheté, puis Geneviève se souvient de toi. Lors de notre tournée de la Gaspésie, elle avait parlé longtemps avec toi, Geneviève, qui est à la régie, là. Tu vois que le monde est petit, hein? C'est le fun, hein?
Je peux dire une chose.
Je ne me rappelle pas de Geneviève parce que j'ai vu tellement de monde.
Ben oui,
bonjour
Geneviève.
Je peux dire une chose, Nathalie, que la boutique fait encore parler d'elle. De la façon qu'elle a été reçue, parce qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires dans cette boutique-là.
Oui.
Et je raconte de temps en temps des gens. Et tu vois, la boutique, vous, on se souvient de toi, on se souvient de moi. Oui. J'en souvenez-vous de telle chose. C'est extraordinaire. Ce que la boutique a pu apporter et de matériel et de spirituel. Je tiens à le mentionner. Moi, je suis pas gêné de dire que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est pas nécessairement ce qu'il y a dans le frigidaire, mais avant tout, ce qui rentre dans l'âme, dans le cœur. C'est très important, je me répète, et ça me prend du courage pour le dire, mais moi, je suis un chrétien, et je tiens à le souligner, que donne ta vie à Dieu, et tu verras que ta vie va changer énormément. Tu vas voir des miracles.
Dis-moi donc, toi, Nathalie, tu connais ton père, évidemment.
Okay.
Il est dans le mouvement religieux Gédéon. Avant, à l'origine, tu étais catholique, comme tout le monde au Québec, là, peut-être.
Non, j'étais baptisé.
Bon, alors, toi, qui es une scientifique dans ta démarche, est-ce que tu es fervente religieuse? Est-ce que tu fais un peu comme ton père, du prosélytisme, ou en tout cas de l'affichage? Comment tu vis ça?
Il y a une anecdote, pas une anecdote, mais un fait qui est important à souligner, c'est que mon père est devenu chrétien parce que moi, j'ai témoigné parce que j'étais chrétienne.
OK.
C'est moi qui ai apporté ce message-là à mon père, qui était dans l'Église catholique, qui était un fervent catholique. Moi, ma démarche, à partir du moment où j'ai commencé à étudier l'anthropologie, ma démarche spirituelle a beaucoup changé. Bon, je m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est sur une période de 20 années, 25 ans à peu près, mais aujourd'hui, je n'adhère à aucune religion. Par contre, je suis une personne qui est très spirituelle. Je pratique le yoga et la méditation depuis plusieurs années. Mais pour avoir un peu étudié, bon, pas en profondeur, mais quand même... les mouvements de spiritualité qui ont émergé, puis d'avoir touché un peu, bon, j'ai touché un peu à l'islam, le christianisme, l'ésotérisme, le bouddhisme. J'ai touché un peu à tout pour voir un peu par curiosité, puis ce que j'ai retenu, c'est que le message de base, il est le même pour toutes les grandes religions ou philosophies. Le fil conducteur, hein, c'est l'amour, c'est l'énergie, c'est l'âme.
Oui.
C'est un monde qui existe, qu'on peut pas nier, un monde qui existe à l'extérieur de nous, autour de nous, qu'on peut pas nécessairement sentir ou voir, mais qu'on ressent.
pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vit dans un monde de vibration, un monde d'énergie. Quand ça dit, par exemple, dans la Bible, fais attention à tes pensées, parce que ce que tu penses, tu deviens. On retrouve le même message dans le bouddhisme.
Mm-hmm.
Parce que c'est de l'énergie qu'on envoie, c'est de l'énergie qui nous revient. Ça, c'est, je pense que c'est la base de toutes les croyances, de toutes les religions. Maintenant, que ça prenne une forme ou d'autre, je pense qu'à un moment donné, les personnes, les personnes en tant qu'individus, puis les grands leaders desquels ont émergé les grands mouvements spirituels et religieux, ils ont été capables de rassembler des gens parce qu'ils étaient charismatiques, parce qu'ils étaient peut-être un petit peu plus, on dit en anglais, in tune avec, tu sais, en diapason avec les vibrations qu'on ressent dans le monde, qui nous viennent de la grande source, qu'il y en a qui appellent Dieu, qu'il y en a qui appellent l'univers, peu importe. Mais, fondamentalement, je pense que les gens ont besoin de s'accrocher à des choses qu'ils voient pour être capable de développer justement cette croyance dans l'énergie. Tous les objets, les tricycles, les capteurs de rêve, les cloches de Bouddha, n'importe quoi, c'est toutes des choses qui sont des supports pour la même foi de tout le monde, en fait. Parce que des fois, c'est difficile de croire à des choses qui ne sont pas tangibles, qu'on ne peut pas voir, qui ne sont pas accessibles. Donc, on part par des tierces, mais en fait, le résultat est le même pour tout le monde. Si ça marche, pourquoi? Ben, tant mieux. Voilà.
Regarde, je te montre présentement, c'est Joanne qui t'écoute religieusement, j'allais presque dire. Là. Notre caméraman qui est à terre pour éviter de faire des ombrages sur nous autres. Mais m'a fait signe, le pouce en l'air en voulant dire, tu l'as l'affaire. Et c'est sûr que tes propos, c'est des propos qui s'adressent à finalement tout le monde. Et là, je sais pas si ton père va être capable de passer un commentaire là-dessus, mais regarde, Claude, t'as pas besoin d'être nécessairement dans une religion pour être spirituel. T'es d'accord avec ça?
Oui, mais spirituel n'est pas nécessairement dans le bon sens. Je connais des gens spirituels qui sont en prison. Le spirituel n'est pas ce que dans le sens que moi j'emploie. Tu peux être spirituel, encore une fois, j'ai des gens qui sont spirituels, je vais me répéter, là, mais qui sont en prison, qui ont tué. Mais spirituel dans le sens de Jésus, pourquoi qu'on a peur d'employer le nom de Jésus qui est venu sur la terre pour sauver les gens? On a donc peur d'employer le nom de Dieu, le nom de Jésus, et il faut être courageux pour ça.
Là, ça me fait penser aux musulmans là, qui, eux, vont dire Allah. Akbar, là.
Non, pas d'Allah qui est au nom d'Allah, mais tu es. Je parle pas de ça. C'est ça le spirituel, hein. Allah, c'est spirituel, mais tu. C'est pas ça le Dieu de la Bible.
Alors, qu'est-ce que tu as à répliquer à ça, Nathalie? Vas-y.
C'est
la grande question qu'on se pose. On est en train de recevoir des musulmans ici en Amérique, au Québec en particulier, et que la démarche est très différente du christianisme. J'entends pas rien que catholique, là, mais christianisme de manière globale. Et on a un problème en se disant, écoute, un autre prophète, là, Allah, là, Mahomet, là, comment on va être capable de digérer tout ça? Comment tu réagis, toi, qui nous as dit que tu connais bien l'islam? Comment tu réagis devant ça?
En fait, je voudrais juste faire un petit bémol. Je ne connais pas bien l'islam.
Ah, OK.
Je connais l'islam parce que j'ai vécu en Algérie.
Ah oui, OK.
J'ai lu le Coran. J'ai même fait la prière de conversion à l'islam. J'ai touché à ce monde-là un peu de l'intérieur, mais je ne peux pas dire que je connais toute la grande pensée ou le grand mouvement spirituel. La seule chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une différence. Les gens font pas la différence entre spiritualité et religion. Spiritualité, ça englobe les choses de l'esprit, les choses de l'âme. C'est ça la spiritualité. Alors qu'à la religion, c'est l'acte religieux qui est de poser un geste. Donc, je m'assois à genoux, je me lève, je me mets debout, je fais le chapelet, je dis 150 prières à tous les matins, je fais Allah Akbar, je me plie, je me couche, je me lève, je me mouche. Ça, c'est tous des gestes religieux.
Je mange pas de cochon, c'est ça, oui.
Etc. Et ça, c'est des gestes qui doivent supporter ta démarche spirituelle. Malheureusement, ça ne va pas toujours ensemble. Il y a des gens qui, avec ces gestes religieux, développent un fanatisme. Et c'est de ces gens-là qu'il faut avoir peur. Maintenant, loin de moi, la science est pure. Rien de moi de penser que j'ai la science est pure, mais il faut faire attention de tomber dans les catégories puis de faire des jugements sur un groupe plutôt qu'un autre. Il y a des fanatiques partout. Malheureusement, moi aussi, je peux dire, j'ai fait partie d'une secte qui était de dénomination catholique quand j'étais jeune. Puis, au nom de Jésus, dans la Bible catholique, on a menti, on a pris de la drogue, on a volé, on a fait plein d'affaires.
Au nom de Jésus?
On prend des textes religieux.
Oui, je comprends.
C'est pas Jésus-là.
On sort d'un contexte global dont, en faisant ça, on perd complètement le sens du message. Et puis, on s'en sert pour justifier nos gestes puis nos pensées un petit peu, peut-être, extrémistes. Puis, c'est ça qui se passe aujourd'hui avec tout le plan de ISIS qu'on entend. C'est des fanatiques. Ça pourrait être une autre religion aussi.
C'est
pourquoi
ça.
On entend plus parler de ça, ça, je ne sais pas, mais...
Ben, regarde, Mahomet, l'islam est apparu 600 ans après le christianisme. Alors, si on recule, il y a 600 ans, le christianisme était en plein dans la période de l'Inquisition. Et à cause de l'Inquisition chrétienne, puis on tuait, et Dieu jugera ceux qui l'aiment. Tu te souviens de la destruction des Cathares et des Albigeois. Alors, on retourne à cette époque, il y a 600 ans, pour les chrétiens. Ben, 600 ans après, est arrivé Mahomet. Maintenant, c'est à eux autres, maintenant, de faire leur inquisition. De la même manière que les chrétiens l'ont fait dans le temps. Fait qu'on se rend compte que plus ça change, plus c'est pareil. Peut-être des phases aussi, d'enfance, d'adolescence. Et eux autres, maintenant, vivent leur adolescence de rébellion, puis ils ont la vérité, puis les autres sont dans l'erreur. Avant, c'était les Juifs, hein. Mais écoute, j'irai pas trop loin là-dedans. Comme t'as connu Alain Bouchard, alors, je vais demander à Geneviève de nous préparer qu'on entende Alain Bouchard à l'Université Laval. Il a fait une conférence là. Ça va durer 4 minutes. Je ne sais pas si tu avais fait partie des sondages, parce qu'Alain, en 1988, il faisait lancer des sondages à des élèves. Non, c'était pas à ton époque, hein. OK. Mais là, on va l'écouter nous donner un peu les résultats de ce sondage en 1988, qu'il a répété avec les mêmes questions en 2015. Et il voit la différence dans l'évolution de notre société. À l'époque, 88, on était encore à l'église, la messe de minuit, puis tout ça. En 2015, là. Alors, on écoute ça 4 minutes, Nathalie, ça va te rappeler. Tu le connais, toi, Alain Bouchard?
Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, dans le club créé. Le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose à tous les abonnés à la salle 15-12 du club créé, ainsi qu'à ceux qui ont assisté à la conférence au début du mois de décembre 2015, voici la conférence donnée à Québec par M. Alain Bouchard, sociologue des religions, qui fait la comparaison du sondage donné en 1988 et repris en 2015. Le même sondage sur le nouveau credo des Québécois.
Donc, ce que j'ai bonne écoute. Faire avec vous parce que Richard est intéressé par le fait que l'an dernier, j'ai refait une enquête que j'avais déjà faite en 1988. Et là, je suis capable de comparer ce qui s'est passé en à peu près 25 ans. Et les résultats sont fort intéressants. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous présenter ce soir. Ça, je vous présente les grandes lignes et un peu ce qu'on voit. Pour 20 minutes, c'est beau. Oui, on est en plein dans le temps. Regardez, hein, après la mort, tout se termine. Hein, il y en avait 13 % en 88. On passe à 20 %. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais c'est une augmentation quand même de 53 %. Hein. Alors, les choses changent réellement. Alors ça, ça me disait, si on regarde juste cet acétate-là, ah ben oui, ben les jeunes, la tendance qu'on observait dans les années 80, ben elle devient concrète. Hein, les gens s'éloignaient de l'institution religieuse, puis là, ben on a le résultat. Hein, on appelle ça un phénomène de socialisation. Les parents s'éloignant, ils socialisent pas leurs jeunes dans cette perspective-là. Donc les jeunes sont plus très attachés, alors qu'on a vu tout à l'heure, il restait une espèce de sentiment patrimonial avec le catholicisme, vous vous rappelez? C'est disparu. Donc ça, c'est une tendance. Hein? Donc, pour reprendre l'expression classique de Bernard de Rome, là, si la tendance se maintient, on l'avait à ce moment-là. Mais rappelez-vous, en 88, on disait, oui, les gens se détournent des religions traditionnelles, mais ils s'en vont maintenant dans d'autres formes de religion. Alors moi, je m'attendais à retrouver ces jeunes-là socialisés par leurs parents qui avaient lu des trucs autour des extraterrestres, de la réincarnation et tout ça. Je les attendais au tournant. Mais regardez bien, et c'est ça qui m'a le plus fasciné. On va terminer avec le catholicisme. Alors, vous voyez donc, la majorité ne prie ou à peu près pas. La majorité, encore une fois, ne vont jamais ou rarement aux offices religieux. C'est encore une fois une forte augmentation. L'influence que la religion a dans votre vie, comme vous le voyez, ça a doublé encore une fois, hein, 104%. Pour les grandes étapes de la vie, ça c'est une nouvelle question, mais vous voyez, seulement 26% vont faire appel aux religions. Donc, vraiment, là, on se détourne des institutions religieuses. Donc, si on fait le bilan, les jeunes se sont complètement désintéressés de ce registre-là, hein, de l'activité.
Là, on est en 2014.
On est en 2014.
Ils ont l'influence d'Internet qui n'existait pas avant.
Aussi, effectivement. Alors là, il faut voir...
Il y a un nivellement de l'information qui vient par Internet, ouais, qui donne...
Sauf que à un moment donné, on pensait que ce serait le contraire. Hein, que l'Internet allait alimenter, c'est-à-dire comme il y avait accès à plus d'informations, cette information-là est aussi disponible sur Internet, puis elle est accessible maintenant sur Internet. Mais fort probablement, ce qui se passe, c'est le même phénomène qu'on observe avec les groupes religieux. Au point de départ, d'ailleurs, les gens avaient peur. Quand Internet s'est développé, il y a des gens qui se sont dit, ça y est, les sectes vont occuper Internet, puis ils vont convertir les gens. On réalise aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe. Premier signal qu'on a eu de ça, c'est il y a 2 ou 3 ans, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons, ont avisé leurs paroissiens que ce serait peut-être préférable que vous n'ayez pas sur Internet, parce qu'on s'est rendu compte qu'un Mormon qui allait sur Internet, il lâchait. Parce que c'est sûr, sur Internet, hein, avec tous les algorithmes, c'est toujours les sites négatifs qui sortent quand vous tapez un nom. Alors, vous tapez Martin Luther King, vous allez tomber sur un site raciste qui va vous parler de Martin Luther King. Alors, c'était la même chose pour les Mormons. Alors, il y a peut-être cet élément-là qui a joué dans ça.
Effectivement. C'était déjà un public jeune. Hein?
Oui.
Et étudiants, donc, ils sont sur Internet tout le temps.
Exact, c'est ça. Mais il se passe quelque chose. Je pense pas qu'on puisse ramener ça seulement à Internet, mais effectivement, ça joue là-dessus. Mais encore une fois, j'ai fait mes corrélations. Il y a encore des univers qui se créent, comme vous le voyez.
Alors, Nathalie, tu viens d'entendre M. Bouchard.
Oui.
Et c'est bien spécial, hein. Alors, l'Internet, ça veut dire qu'il y en a qui se font dire, touche pas, c'est l'œuvre du diable. Qu'est-ce que tu penses d'Internet? Vas-y.
C'est une question à deux faces.
Ouais, hein, comme tout, hein. Comme tout, dans le fond, yin-yang.
Ça va être une réponse à deux faces aussi.
Ah oui, donc?
Ben, en fait, si je regarde dans les écrits bibliques, On fait souvent référence au nombre de la bête, 666, hein? Vous êtes sûrement au courant.
Ah oui, oui.
Puis, quand j'étais jeune, j'avais peut-être une quinzaine d'années, je me souviens que j'avais assisté à une conférence sur l'Apocalypse. Puis, il disait que le chiffre 666, en fait, ça représentait une menace mondiale qui était en fait un ordinateur central qui contrôlerait la vie de tout le monde. Je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. Puis je pense que c'est là le fondement de la peur de ces mouvements religieux-là, qui sont convaincus que ce qu'on a aujourd'hui avec l'Internet, c'est vraiment l'œuvre de Satan.
Oh là.
Donc.
Puis là, j'entends Claude qui nous dit oui, il y a ben, c'est bien ça.
Ça veut pas dire que toutes les sataniques, ça veut pas dire ça, là. Il y a des bonnes choses sur Internet, là.
OK.
Ouais.
Mais il y a aussi des mauvaises.
Attends, on va la laisser finir. Vas-y, Nathalie.
C'est ça. Ceci dit, je peux comprendre la pensée derrière l'enseignement ou l'avertissement qu'ils font à leurs adhérents. Mais je vais avec aussi dans le sens de mon père, c'est que moi, mon père, il m'a toujours, ça, j'ai toujours appliqué ça dans ma vie, au milieu est la vertu, l'équilibre dans toute chose. Puis en québécois, un petit peu de tout, puis pas trop de chaque. Donc, c'est à nous de faire notre propre analyse, puis d'utiliser les outils qu'on a à notre portée à des bonnes choses. Tu peux faire le bien et le mal avec tout ce qui t'est donné. Hein,
oui.
Et l'Internet, c'est pas exclu de ça aussi. C'est un outil. Regarde, aujourd'hui, je trouve ça merveilleux. Je vous vois, vous êtes dans une ville à 4 heures de chez nous. Je peux voir mes petits-enfants qui sont à 16 heures de route de chez nous.
Ah, t'es vu tantôt, là, cette île?
C'est merveilleux. On a l'information au bout des doigts. Moi, honnêtement, qui est une fille de nature, de bois, j'aime la vie d'autrefois, ben, mes parents peuvent vous le confesser, jamais je pourrais vivre sans mon téléphone.
André travaille à la boutique d'Éric avec sa femme Sophie, ici à Belleuil, dont on a parlé tantôt, là, le meilleur du monde. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous, parce qu'elle est un peu épuisée à l'époque de Noël, comme ça, il y a tellement de clients, il y a tellement de choses à faire. Mais c'est ça, moi, ce que je voulais, c'était une réunion de famille du temps de Noël, mais par les méthodes modernes comme on fait présentement. Puis, t'es un beau témoignage, Nathalie. Alors, est-ce que tu peux me donner ton impression de Noël maintenant? Ça sert à quoi, Noël?
Parce qu'on parle plus de Jésus.
Oui, on parle plus beaucoup du Père Noël non plus, puis on parle plus beaucoup de Jésus. Ah, alors, qu'est-ce qui reste? Ah oui, chez vous, on en parle. Ben oui, le patriarche est toujours là. Mais est-ce que, quand, comme disait Alain Bouchard tantôt, la génération passe, puis s'ils n'ont pas inculqué des valeurs spirituelles à leurs enfants, c'est Internet, ça va être les jeux Nintendo, puis au bout de la ligne, on s'éloigne.
Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? T'es bien placée. Ouais, pour voir l'évolution de la société, puis ton point de vue là-dessus m'intéresse vraiment.
Pour moi, Noël, d'abord, Noël, en tant que fête religieuse, c'est une grosse farce monumentale, parce que ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Au départ, c'est une fête païenne. Les gens qui sont un peu versés dans les religions, dans l'ésotérisme, dans l'histoire, peuvent le constater, ou même dans les écrits. Donc, on nous a fait croire que c'était une fête religieuse, alors que ça n'a pas rapport pantoute, parce qu'on voulait que les gens quittent le paganisme pour adhérer à un nouveau mouvement spirituel qui est devenu une grande religion. Ceci étant dit, ça fait quand même partie de nos traditions, puis c'est des traditions qui sont chères à mon cœur. Je pense que dans toutes les grandes familles, on célèbre Noël, c'est une occasion d'être ensemble, c'est une occasion de se parler, de se rencontrer. Puis ça, pour moi, c'est encore au cœur de la fête de Noël. Je suis déçue et j'ai mal au cœur de toute la commercialisation qu'on nous envoie à la figure à chaque année. Je trouve que c'est une orgie de surconsommation à chaque année. Puis les gens s'endettent, se mettent dans la misère, se sentent obligés d'acheter des cadeaux, des shows, des décorations à chaque année. Ça finit plus. On oublie l'essence, encore une fois, spirituelle, c'est-à-dire l'esprit de Noël, qui est d'être ensemble, de partager de l'amour, de partager des bons moments, de partager du temps ensemble. Pour moi, c'est ça l'essence de Noël.
Ben, c'est ça que... Ça. Oui, moi j'avais l'impression d'appeler Noël maintenant la fête de la famille. Je sais que chez les Juifs, c'est l'Hanouka, hein, et l'Hanouka, c'est la fête de la lumière, parce que c'est le retour de la lumière. Les journées là, qui sont très courtes vont finir par rallonger à partir de Noël, là, graduellement. Alors, ce qu'on fait ce soir, c'est dans l'esprit de Noël moderne.
Ouais. C'est vraiment cool!
Oui! Ben, t'as un père qui est cool parce qu'il a embarqué dans l'idée.
Pourquoi non?
Ça veut dire quoi?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ben oui, c'est bon, hein? Ben, c'est merveilleux. Fait que, Nathalie, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter? Est-ce qu'on va, je sais pas, moi, dans le domaine de ta recherche, de ton travail scientifique, professionnel, y aurait-tu un scoop? Moi, je suis journaliste un petit peu, c'est bon, on cherche toujours le scoop en quelque part. Savais-tu qu'on demeure, maintenant, ton père demeure à Mont-Saint-Hilaire, s'appelait oui. autrefois Wigwam Allensis. Wigwam Adensis. Wigwam, c'est un wigwam, hein, tout le monde sait, ça veut dire une maison. Puis Adensis, ceux qui viennent du ciel, ou des géants, ça dépend d'une ou d'autre des traductions. Et on vient de découvrir dans la région du Mont-Saint-Hilaire, du bord du Richelieu, tu étais au courant?
Oui.
Ah, ben, raconte-nous là, t'es mieux placé que moi pour en parler.
Ben, je m'avance, là. Est-ce que vous parlez des géants?
Oui.
Oui. Ben, j'ai vu ça sur Facebook!
Ben oui. Alors, il y a des choses importantes qui se passent présentement. Tu es dans un univers scientifique de pointe. C'est en regardant le passé, en grattant, c'est le cas de le dire, gratter le sol, qu'on va finir par faire des découvertes qui vont nous renverser tout le monde. Et puis, d'après toi, si je te pose une question un petit peu ésotérique, là, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu des civilisations qui sont disparues dans l'oubli total et qu'on va redécouvrir graduellement qu'avant... on parle de l'Égypte ancienne, moyen empire, ancien empire, puis avant, qu'il y avait peut-être d'autres mondes, un monde peut-être très organisé sur la Terre qui est complètement disparu.
L'Atlantide.
Oh, voilà, j'osais pas le dire, là, mais...
Quoi?
L'Atlantide. Et ici,
oui,
on va...
Oui. Absolument, je crois à ça, absolument.
Et Nathalie, tant qu'à y être, t'es pas obligé de répondre, là, hein, parce qu'on est en direct, alors ce qui est dit va rester dit. Mais si on regarde vers le futur, les extraterrestres, est-ce que, d'après toi, on parle d'exobiologie, de planètes qui habiteraient peut-être la vie ailleurs dans l'univers, penses-tu que ça se peut?
Écoutez, longtemps, je me suis rebutée contre cette idée-là parce que, justement, parce que j'étais dans une religion chrétienne, puis pour moi, ça n'avait pas de bon sens, mais comme avec les années d'expérience, d'études, de lecture, tout ça, il y a des... je ne sais pas combien de milliers de systèmes solaires avec des milliers de planètes. Ça serait un petit peu condescendant, pas condescendant, mais comment on dit ça? De se prendre pour d'autres, de dire qu'on est les seuls qui habitent une planète. Là. Franchement, ouais. Non, je peux pas concevoir ça.
C'est un peu condescendant, comme tu dis, là, c'est se prendre pour l'autre, là, puis un peu d'orgueil, puis mal placé.
Ouais, oh Dieu!
Ouais, c'est ça. Mais là, si je vais encore plus loin, est-ce que tu crois que c'est vrai ceux qui prétendent avoir vu des soucoupes volantes ou même avoir eu des contacts avec des êtres qu'on appelle extraterrestres?
T'as pas étudié assez? Je suis prête à en
croire. Oui.
Mais je pense qu'il y en a qui sont peut-être pour le sensationnalisme ou peut-être qu'il y a eu des hallucinations. Oui,
normal.
Peut-être.
Ouais, c'est
encore
ça.
Une fois... au milieu et la vertu.
Ah oui. In medias tad virtus. Oui, c'est
voilà.
Ça. Ah ben merveilleux. Hey, c'est beau, Nathalie. Je te remercie beaucoup. C'est un beau témoignage. Écoute, ton père, on voit que c'est un Québécois pur laine. Et tu regardes là, tes descendants, tes enfants. Puis là, tu sais une chose, moi, quand je t'ai parlé on s'est rencontrés au Tim Horton comme ça. Moi, j'étais déguisé en Père Noël. Puis il me voit à face. Puis il dit les dons. Tu peux le parler, t'as ton micro.
Quand je l'ai vu au Tim Horton, il est habillé comme ça. Et quoi, moi, Nathalie, là, j'ai descendu à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, 6 ans, c'est le Père Noël que j'avais imaginé. Parce qu'à chaque cité, les Pères Noël, il n'y en avait pas, là. Mais c'est le Père Noël que j'avais imaginé. Il surveillait toujours la cheminée, comprends-tu? Quand je l'ai vu, j'ai vu mon Père Noël. Et j'ai dit, bonjour Père Noël, c'est mon enfance. Je l'avais imaginé comme ça. Et c'est comme ça que c'est arrivé qu'il y a eu un contact.
Ah oui.
Si je peux faire un commentaire là-dessus, mon père.
Vas-y.
Tu sais, tout est énergie dans le monde, puis l'univers va matcher les pensées que tu envoies. Alors, quand tu étais un petit enfant, tu envoyais une image d'un Père Noël que tu voulais voir, l'univers te l'a donné, mais juste un petit peu plus tard que tu pensais.
Oui, je vais rajouter quelque chose quand même, Nathalie. C'est, oui, c'est un peu vrai. Mais moi, à tous les matins, ce que tu sais pas, à peu près à tous les matins,
Je demande à Dieu, au Seigneur Jésus, de me guider vers les personnes qui ont besoin d'aide ou que moi, ils peuvent m'aider. Et il n'y a pas de hasard, le Seigneur a répondu à ma prière et ça a été Richard. Ça, je le crois, c'est selon ma foi, là. Je le crois vraiment. Et ça arrive là, souvent.
Eh bien, moi, figurez-vous.
Je sais.
Alors, moi, Nathalie, figure-toi que moi, ce matin-là, j'ai fait la même demande, mais pas à Dieu, à mes amis cosmiques. Que je rencontre quelqu'un qui va pouvoir animer, faire partie et faire qu'on fasse une émission de Noël exceptionnelle cette année. Et ils m'ont fait rencontrer Claude. Fait que c'est Dieu qui dit, tu vas rencontrer quelqu'un, puis moi, c'est mes amis cosmiques, j'ose appeler comme ça plutôt que dire extraterrestre, mais qui fait que finalement, tu vois, t'as raison, dans le fond, la vérité est dans le milieu, c'est ça.
Je voudrais rajouter aussi que lorsque j'ai fait quelques téléphones, j'ai dit à mes amis chrétiens que j'allais dans une émission ésotérisme.
C'est ça, ça s'appelle l'ésotérisme expérimental.
Oui, c'est ça. J'avais répondu à une de mes amies qui m'a répondu, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai dit, si lui parle de l'extraterrestre du Star Wars, moi, il m'a parlé de Jésus-Christ. Ça va me prendre beaucoup de courage. Puis toute la journée, j'étais en prière. Et Seigneur, je te remercie beaucoup, Esprit Saint, de m'éclairer, de me donner la force, et de donner les mots aussi, afin d'être l'objectif, c'est de toucher un cœur qui a besoin, surtout à cette période des fêtes.
Et là, je montre l'image de Jésus faite à partir du sphère de Turin.
C'est un sphère de Turin.
Ouais, c'est ça. Puis tu
c'est
vois.
C'est pas sa face.
Tu n'aimes pas sa face?
C'est pas sa face à Jésus qui est sur le Saint sphère de Turin.
Ah,
c'est un monsieur des années de je sais pas quelle année. Là.
Ouais, du Moyen Âge, oui.
Le carbone 14 a prouvé ça d'ailleurs, mais ça, on y croit, on prend quoi pas. Ça, c'est pour moi, c'est des pacatilles.
Ouais, exactement.
Le sujet d'une autre émission.
Absolument. Pour moi, c'est des pacatilles.
Hey, tu m'ouvres la porte, là, Nathalie. Je vais te recontacter. J'ai ton numéro de téléphone. Peut-être qu'on va s'établir une nouvelle idée d'émission entre toi et moi, là.
Ben, parfait. Vous me rappellerez. Pas de problème.
Ben, bravo.
Pourquoi non?
En tout cas, Nathalie, on va le faire mieux qu'on a. Malheureusement, avec Cynthia, ça s'est coupé brutalement. Mais dans ton cas, ben, je te souhaite de passer un bon temps des fêtes, un bon temps de Noël. Et puis, au plaisir de te retrouver en 2016. Là.
Parfait. Ben, vous, pareillement, merci de m'avoir invité. C'était vraiment agréable comme expérience. Merci.
Ah, tu faisais partie des fruits de l'arbre de Claude. Nathalie. On juge l'arbre à ses fruits, puis t'es un beau fruit, un bon fruit, merveilleux.
Merci. Nathalie, veux-tu rester là? Parce que je veux finir l'émission, si, avec ta permission de mon ami. J'ai dans un moment assez extraordinaire de ma vie, vous avez pas tout ce qui se passe dans mon cœur.
Attends un peu d'abord. Je voudrais donner la parole à Eric qui est avec nous autres avant qu'on filme. Puis après ça, on te laisse la parole pour terminer complètement l'émission. Oui, reste là, Nathalie. Reste là.
Oui,
on va donner la parole à Eric qui est avec nous, qui est tranquille dans son coin, mais quand même. Alors, si Eric, toi, tu peux nous donner aussi une réponse par rapport à Noël avec les temps modernes. Je sais pas, tu as une petite fille là, de 2 ans. Et puis, est-ce que tu vas l'instruire du Père Noël, de Jésus, et puis ça va avoir l'air de quoi, Noël? Attention, Claude.
Nathalie a pas mal tout dit. Hein? Elle a bien résumé ce qui se passe présentement. On est de plus en plus une société de surconsommation durant la période des fêtes. On oublie nos racines, on oublie que c'est la fête de l'amour, puis qu'il faut, c'est le temps de se réunir en famille, puis... Ce que je trouve formidable ce soir, c'est l'idée que vous avez eue de nous rassembler par l'entremise d'une technologie qui est très contestée présentement. Internet, est-ce que c'est une œuvre de Satan? Est-ce que c'est un moyen de se rapprocher? Ben, ce soir, on a la réponse. Je pense que c'est une belle façon de rapprocher tout le monde puis de donner la chance à nos aînés. Je pense à mon beau-père. D'être réunis avec des gens qui sont très éloignés, mais ce soir, on les sentait très proches. Donc, je tiens à vous remercier. Puis c'est ça, Noël.
Toi, Claude, t'es content de la soirée?
Moi, je suis content, je suis émerveillé, parce que dans un respect, nous avions ici différentes pensées, différentes philosophies, mais un seul objectif, c'est que unis par l'amour, mais dans un respect.
Oui,
c'est pour
vrai.
Ça que si tu me permets, est-ce qu'on
Oui, alors là, je te laisse. Oui, alors, attends, je veux juste dire pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, mesdames, messieurs, on va faire l'émission qui va passer pour le jour de l'an. Et ça va être le party du jour de l'an, comme on pourrait dire. Mais ça va être avec ma famille à mon tour, c'est-à-dire mes amis proches aussi, mes deux gars. Il y a Emmanuel qui est un superviseur technique de l'émission ce soir, qui a essayé de gérer le tout pour qu'on reprenne les ondes, tout aille bien. Finalement, tout va bien, il est dans la quiétude, tout se fait calmement. Et la semaine prochaine, on aura aussi des collaborateurs par Internet, via Skype. Et on aura des révélations étonnantes, entre autres M. Alain Bouchard, qui est allé rencontrer la mère de Raël en France. Et il a demandé à la mère de Raël, ben, dites-nous donc, votre gars raconte que vous êtes le fils de, je sais pas trop, un Elohim, là. Avez-vous fait l'amour avec un Elohim? Ben, la réponse, la semaine prochaine, de la bouche d'Alain Bouchard. Toi, Nathalie, tu l'as connu, Alain Bouchard, il est crédible, cet homme-là, quand même, hein?
Oui, absolument.
Oui. Oui, professeur de l'Université Laval, c'est là que tu l'avais connu?
Oui. Ah,
alors oui, donc c'est très, je vous le dis tout de suite là, c'est pas oui puis c'est pas non, mais c'est quelque chose de peut-être plus particulier, et c'est la première fois que ça va être révélé au grand public. Il y en a qui vont se retourner dans leur tombe parce que c'est étrange la façon dont il arrive avec ce dossier-là qui est pourtant très troublant, là, tu sais. Ah, voilà. Oh, crime. Alors, notre ami à côté, Claude, il se prépare pour faire la grande finale de notre émission. Je tiens à remercier Emmanuel qui n'était pas avec nous physiquement à Montréal. Il a essayé de gérer le tout par, comment t'appelles ça, là? Oui, TeamViewer. Ensuite, Geneviève qui a fait un travail merveilleux parce qu'elle fait tout, là. Elle fait le son, elle fait l'image, elle fait les... Et on avait une caméraman, c'est rare, mais on l'avait avec nous. La semaine prochaine, elle va être nous en tant que partie de l'équipe. C'est Joanne, merci beaucoup Joanne. Hein? Merci.
Caméra woman.
Ah oui, caméra woman, vous avez entendu, ben oui. On t'a vu un petit peu tantôt. Et puis... voilà, grosso modo, on va finir avec Claude et je te remercie, Claude. Vraiment, là, tu as été exactement... Toi, si moi, j'étais le Père Noël de tes rêves, moi, je vais te dire, tu étais l'invité souhaité idéal pour une soirée comme ce soir. Alors, je te laisse la parole jusqu'à la toute fin. À la fin, il y aura évidemment le générique.
Comme de ça.
Oui.
Bon, moi, je veux finir par une prière. Une prière que j'ai composée. Et c'est une supplication. Parce que je me rends compte, tu sais, Nathalie, que je fais un petit peu de relation d'aide. Je me rends compte que c'est pas négatif ce que je te dis. Il y a de l'espoir. Les gens sont tristes. Et hier, il y a eu une téléphone et c'est là que je me suis réveillé. Alors, on l'a appelé Edith. Elle dit, puis comment ça va, Edith? Noël, un petit chose. Peut-être que je ne passerai pas Noël. Et j'ai demandé si elle devait poser un geste d'attendre après mon émission. C'est très sérieux. N'oublions pas, j'ai documenté qu'au Québec, qu'on me démentisse n'importe quel temps, qu'il y a plusieurs personnes qui se suicident à tous les jours, champions mondiaux. Donc, en conclusion, je crois qu'il est temps de faire une supplication collectivement, demander à Dieu de venir visiter nos maisons, et j'ai appelé ce Dieu de toutes les nations, parce que tu sais que dans notre famille, Nathalie, nous avons 5 nations différentes, ou 6, Amérindiens, Algériens, Mexicains, Français, on a tout ça, Amérindiens, et donc j'ai appelé Dieu de toutes les nations, je te remercie de l'écouter, puis merci, mesdames et messieurs, d'écouter cette prière et écoutez surtout les mots que je trouve beaux et de ce temps. Je pense que c'est le temps qu'on supplie le Seigneur de venir dans nos maisons. Dieu de toutes les nations, avant la grande moisson, Dieu de toutes les nations, viens visiter nos maisons. En cette journée très pluvieuse, j'ai toujours envie de prier.
en cette journée ensoleillée, humblement te demande pitié, Dieu de toutes les nations, avant la tribulation, Dieu de toutes les nations, t'en supplie, viens visiter nos maisons. Merci. Travail. Yamé. Yamé.
On le voit. Bravo. Ce soir, à ce vidéo rendu numéro 51, nous avions la présence de M. Claude Saint-Pierre et la famille pour le temps de Noël. Quel beau choix qui a été mis sur mon chemin, sur ma route. Et nous avons entendu un extrait de la conférence donnée par M. Alain Bouchard, professeur à l'Université Laval, sociologue des religions, qui est disponible dans la salle du Club Créé, pour ceux qui sont abonnés au Club Créé, pour entendre toute la conférence au complet, dans la salle 15-12 du mois de décembre 2015. Ne manquez pas le complément surprenant qui va suivre immédiatement, qui donne des informations, des détails et des liens sur Internet, et la version audio par Jean-François Poulain. À la régie, notre spirale. Et la supervision technique était faite par Emmanuel, mon garçon, qui était à Montréal pendant qu'on était ici à Mont-Saint-Hilaire. C'est une production ésotérisme-exp.com sur Orandia TV, canal sur YouTube. Et ne manquez pas le congrès UFO 401, UFO 501, disponible à l'adresse orandia.ca.